France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
En 1974, Claire Bretéché a 34 ans. Elle s'est fait connaître par ses dessins pour le magazine Pilote et pour la revue satirique L'Écho des Savanes. Depuis l'année précédente, elle réalise chaque semaine pour le Nouvel Observateur la page des frustrés, dans laquelle elle croque ses contemporains, post-68ard, pris dans leurs contradictions et dans celles de l'époque. C'est cette série qui la fit connaître au-delà des cercles d'amateurs de bande dessinée. À Bernard Pivot qui lui demandait quelques années plus tard s'il était juste de parler à son sujet d'humour d'observation, elle répondit « Si on veut, oui, mais je ne suis pas du tout observatrice et je suis myope, alors ?» C'est avec le même sens de la répartie qu'elle répondait ou parfois résistait aux questions d'Harold Portnoy pour une émission de la série Le Temps Libre, diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 janvier 1974.
Pour les auditeurs qui n'ont pas écouté la première émission de cette nouvelle série, j'en rappellerai succinctement le double objectif. D'abord, approcher une personne, l'invité de l'émission, à partir de la notion de temps libre. Suivre son discours, réagir parfois, mais en acceptant les méandres de ses idées, même si apparemment nous nous éloignons du thème initial. Derrière la parole individuelle se profilent toujours des signes de notre époque. Capter ces accents de notre temps, deuxième visée, en évitant une réflexion au niveau de théorie générale, non habitée le plus souvent par l'expérience vécue. Aujourd'hui, nous allons parler de bandes dessinées. De quels signes sont-elles porteuses ?
Claire Bretéché est une spécialiste de bande dessinée. Je vais lui poser la question que je pose à tout le monde pour commencer cette série. Qu'évoque pour vous la notion de temps libre ?
Ça évoque pas grand-chose parce que je considère que moi, je n'ai que du temps libre. C'est le genre de phrase qui vous fait aimer en général. Mais comme je fais vraiment beaucoup ce que je veux par rapport à la moyenne des gens... J'estime que si c'était pas mon travail, je le ferais quand même. Donc, je vis dans un perpétuel temps libre. Ce qui est quand même pas mal.
Vous dites que vous vivez dans un perpétuel temps libre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contraintes dans votre vie ?
C'est-à-dire qu'au point de vue travail, il y en a relativement peu parce que je peux m'organiser comme je veux, si vous voulez. Sauf, bon, maintenant je travaille au Nouvel Observateur où j'ai une page à rendre toutes les semaines. Bon, ben, je sais que le mercredi, il faut que je rende ma page, mais enfin, évidemment, c'est une contrainte. Tout le monde a des contraintes, mais enfin, elle est minime, si vous voulez, parce qu'en une semaine, j'ai largement le temps de faire une page. Enfin, j'ai le temps d'en faire 8, hein, pour tout dire. Et puis, alors, pour les autres travaux que je fais, je décide moi-même de la date à laquelle je les rends. Je les rends quand ils sont prêts. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de contraintes.
Ça veut dire que vous disposez de votre temps ?
Oui, en gros, oui.
Et ça veut dire quoi que vous disposez de votre temps ?
Ça veut dire que je ne fais rien la plupart du temps. Que je traîne, que je vais au cinéma, que je dors, que je... enfin, je ne l'emploie pas du tout d'une façon culturelle comme je devrais. Si je vais au cinéma, je lis énormément. Enfin. Mais ça, c'est un peu obligatoire parce qu'il faut bien que je trouve des idées quelque part.
Ça veut dire quoi, trouver des idées quelque part ?
Ça veut dire qu'il faut remplir des pages avec des bêtises, que ce soit avec des bêtises ou avec des choses sérieuses. On ne sort pas ces trucs de son cerveau, on les prend quelque part, puis on les ressort.
C'est alors... étonnant parce que le nom que vous avez dit, c'est le nom bêtise. Il faut remplir des pages avec des bêtises, avez-vous dit ?
Ah oui, c'est pour ça que je trouve que j'arrive pas à me dire que je fais vraiment un travail. Parce que d'abord, quand j'étais gosse, je faisais déjà des bandes dessinées à tour de bras et au lieu de faire mes versions. Et maintenant, en fait, c'est la même chose. Et ce qui est bien, c'est que c'est un travail stupide. Enfin, plus votre histoire est bête, et meilleure elle est.
Expliquez-moi ça.
Je sais pas. Si vous avez lu des bandes que je fais, vous verrez que c'est complètement idiot. Et moi, ça me satisfait énormément de faire de l'absurde. Enfin, j'aimerais faire du plus absurde, mais j'y arrive pas. Je crois qu'il y a un fondement rationnel que j'arrive pas à éliminer complètement. J'ai des copains qui y arrivent bien, mais moi, j'ai encore du chemin à faire. Enfin, on fait avec ce qu'on a.
Mais vous pouvez dire un peu plus pourquoi vous êtes tenté par l'absurde?
Pourquoi, j'en sais rien. Il y a que ça qui me plaît. Il y a que l'absurde qui m'intéresse. Je veux dire que... c'était vraiment des banalités épouvantables. Mais enfin, je trouve que la vie est d'une absurdité incroyable et réjouissante. Et que plus les détails de la vie sont absurdes, et plus on se rapproche donc de la vie, donc mieux ça vaut. Plus c'est réjouissant, plus je suis content. Qu'est-ce que vous voulez?
Vous vous protégez de quoi en faisant ça?
Je me protège pas. J'utilise... je fais de la récupération.
Ça veut dire quoi?
Écoutez, je fais des pages, par exemple, dans le Nouveau Observateur, parce que c'est ça que vous connaissez, sur, disons, la vie courante. La vie courante, ce sont les gens qui la font. Et les gens, par exemple, ont chacun une opinion de luxe, c'est-à-dire l'opinion qui leur fait plaisir, disons, une opinion politique, mais enfin, ça recouvre tout. Et ils ont une opinion pratique, c'est-à-dire l'opinion qu'ils sont capables de mettre en action. Et la contradiction entre leur opinion de luxe et leur opinion... possible et efficace, et très très absurde et très réjouissante par là.
Pourquoi associez-vous absurde et réjouissant?
Parce que ça me réjouit moi, et je trouve que c'est profondément réjouissant de voir des gens se contredire sans arrêt avec le plus grand sérieux. Moi ça m'amuse, c'est pour ça que mes bandes marchent pour le moment, donc ça doit en amuser d'autres.
J'ai envie de vous poser une question.
Allez-y.
Est-ce que vous avez le sentiment, en faisant ça, de vivre une revanche sur quelque chose?
Ah oui, tout à fait.
Vous pouvez en dire sur
vous
quoi?
Savez, tout le monde a une revanche à prendre sur son éducation, sur son éducation. C'est-à-dire qu'on vous élève, peut-être plus les gosses maintenant, parce que quand même les gens ont un peu évolué, mais on vous élève dans l'idée que le monde est un truc extrêmement bien ordonné. Enfin, il y a la nature qui fait bien les choses, ou bien c'est le bon Dieu qui fait bien les choses. De toute façon, vos parents font bien les choses. Et quand on commence à prendre un peu de jugement, on s'aperçoit qu'ils font pas du tout bien les choses, que la nature fait pas bien les choses, que le bon Dieu fait pas bien les choses, que les parents ne font que des bêtises. Alors, c'est amusant.
Comment vous avez été élevé, vous?
J'ai eu l'éducation classique, bourgeoise, catholique. Très, très classique, très bourgeoise et très catholique. Donc, grotesque.
Pourquoi donc grotesque?
Écoutez, je sais pas comment vous avez été élevé, vous, mais je suis sûre, quand on passe 15 ans de sa vie dans un collège de bonnes sœurs, c'est vraiment, on frise le grotesque tout le temps et on le rejoint la plupart du temps. Enfin, maintenant, je suis très contente d'ailleurs d'y avoir été, je m'y plaisais énormément. C'était marrant, les bonnes sœurs étaient ce qu'elles étaient, mais enfin, c'était folklorique. J'étais très heureuse, enfin, au moins jusqu'à 15 ans, parce qu'à 15 ans, ça commence à devenir pesant. Mais de ce point de vue-là, j'ai pas de revanche à prendre, si vous voulez, parce que je me suis bien marrée. Je prenais ça un peu comme un jeu, tout ce qui était le côté scolaire, parce que c'était très folklorique, c'était une espèce de couvent gothique 19e, vous voyez, avec... c'était formidable.
En province?
À Nantes, oui. Fallait faire des révérences tout le temps, je sais pas comment vous dire, il y avait une ambiance extraordinaire. Alors, il y a un côté théâtre qui était assez passionnant. Ce qui était théâtral aussi, c'était les trembles que je recevais quand j'entrais à la maison, parce que j'avais pas des notes extraordinaires. Ça, j'aimais moins, justement. Mais je veux dire que l'éducation catholique, l'éducation religieuse en général, vraiment rencontre l'absurde sans arrêt, parce que ce qu'on vous apprend est tellement en contradiction avec ce que vous pouvez observer dans l'existence que... Alors là, c'est vraiment une bonne éducation pour avoir le sens de l'absurde, à mon avis.
Et dans votre famille?
C'est la même chose. C'est le catholicisme intégriste poussé à l'extrême.
Et vous receviez des trempes?
Je recevais beaucoup de trempes, oui. Je commence à oser le dire, mais j'ai eu très honte de ça pendant très longtemps. Non, mais je suis une enfant de la guerre. Mon père est rentré d'Allemagne quand j'avais 5 ans, alors les rapports ont été très tendus. Alors, ça a donné des trempes.
J'espère que ça n'a pas donné que ça.
Ça a donné à peu près que ça, à vrai dire, du côté de mon père.
Vous n'aviez pas de relation?
On s'entend très bien,
bien
entendu. Pardon?
Vous n'aviez pas de relation avec lui à ce moment-là?
Aucune, non, vraiment.
Moi, il y a une chose qui m'étonne. La première chose que vous avez dite lorsque j'ai parlé de temps libre, c'est que moi, je vis le temps libre. Je suis libre. Vous m'avez dit ça.
Oh, je suis libre, enfin, relativement, par rapport à mon travail, puisque quand même la notion de temps libre, ça se rapporte à la question de travail et de métier. Hein.
Si on veut.
On peut pas, c'est difficile de les isoler.
En tous les cas, vous semblez jouir d'un temps dont vous disposez.
Ah ben j'en dispose et j'en jouis vraiment beaucoup. Hein. Je suis très 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 contente de ne pas aller au boulot tous les jours. Ça vraiment, c'est une jouissance perpétuelle. Enfin, ça a ses inconvénients parce que si vous voulez, se coller au travail quand on n'a aucune contrainte, justement, c'est quand même pas très facile. Il y a des moments où, bon, justement, je m'y colle pas, ce qui fait que j'arrive dans des impasses où en 8 jours, il faut que je fasse le travail d'un mois. Bon, mais ça, c'est le revers de la médaille. Mais enfin, je préfère avoir ce revers-là et avoir l'autre côté.
Et alors, ce qui m'étonnait, et ce que je voulais vous dire, c'est que vos héros, je ne sais pas s'il faut dire comme ça quand il s'agit de bande dessinée, mais disons comme
c'est
ça.
Le terme consacré,
c'est le terme consacré. Oui. Ben, vos héros, ils n'ont pas l'air libres du tout. Je dirais même que je suis en train de me dire, mais pourquoi je vous ai demandé de venir ? Et je crois qu'une des références dont je n'étais pas très conscient, c'est que vos héros donnent le sentiment d'être dans une contrainte et une non-liberté vraiment extraordinaire.
Ah oui, mais peut-être c'est pas le temps qui leur manque. Ils ont peut-être des contraintes autres. Enfin, je veux dire, dans Le Nouvel Observateur, c'est beaucoup d'histoires de couple, non ?
Oui.
Bon, ben, on peut avoir.
Ça s'appelle comment, la page des frustrés ?
La page des frustrés, oui. Non, parce que, en fait, liberté, le fait de vivre en couple, justement, est une contrainte absolument épouvantable. Et en même temps, si tout le monde vit en couple, c'est qu'il y a des raisons qui font que c'est mieux de vivre comme ça. Enfin, probablement plus supportable de vivre comme ça. Mais moi, j'ai ressenti très fortement la contrainte de vivre avec quelqu'un. Mais je veux dire, ça ne m'enlevait pas mon temps libre, si vous voulez. Alors, c'est une autre paire de manches. On parle de quoi ? Du temps libre ou de la contrainte en général ?
Ben, je ne sais pas, moi, mais il semble que la contrainte par rapport au temps rejoint une contrainte plus large, non ?
Non. Pourquoi ?
Ben, je ne sais pas, moi, vos héros, ils ont l'air tout à fait conditionnés, comme on dit maintenant.
Oui, ils sont conditionnés, enfin... Bon, je sais pas, je change peut-être un peu de sujet, mais pour parler des héros, comme vous dites... D'ailleurs, maintenant, c'est très démodé de dire des héros en bande dessinée. Je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut dire que c'est des anti-héros. Le héros est complètement démodé. Hein. Je vous dis ça pour votre culture.
Oui, mais vous savez, le héros et le anti-héros, ça doit être la même chose.
C'est exactement la même chose. Mais je veux dire qu'en bande dessinée, avant, il y avait le héros, il y avait Tintin, il y avait Spirou. Et maintenant, il y a des anti-héros. C'est-à-dire qu'il n'y a presque plus un personnage qui dirige l'action tout le long. C'est un personnage interchangeable tout le temps. Enfin, bon, bref, je dis ça entre parenthèses. Je me suis aperçue un jour... jour béni, parce que c'est comme ça que j'ai commencé à gagner ma vie, que j'avais des tas de pensées inavouables, de réactions un peu honteuses, de ceci, de cela. Et je me suis dit, comme je suis un spécimen d'humanité à peu près normal, les autres doivent les avoir aussi. Alors, en faisant des pages là-dessus, je me suis aperçue que, effectivement, les gens se reconnaissaient bien dedans, donc j'ai continué à puiser dans mon fond personnel, et, qui est le même que celui de tout le monde. Enfin, c'est un système qui a bien marché.
Mais moi, j'ai presque envie de dire que par rapport à vos héros, l'identification se ferait à rebours.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en voyant leur vie et puis leurs actions, on aurait envie de ne pas faire comme ça.
Ah ben oui, mais tout le monde fait comme ça. C'est ça qui est formidable. Par exemple, je ne trahis rien en vous le racontant, parce qu'il est tout à fait... On en a parlé avec lui, mais le directeur de l'Observateur, qui est Claude Perdriel... n'a pas été très content parce que j'ai fait une page qui retraçait fidèlement une conversation qu'on avait eue tous les deux au sujet de l'argent. Et où il s'est senti très visé quand il l'a lu. En fait, ça le représentait lui, mais ça représentait une quantité de gens qui pensent la même chose. Et moi, j'étais représentée aussi d'une façon pas du tout...
héroïque.
Pas particulièrement héroïque. Et lui a vraiment pris ça pour lui et il n'était pas content. Il m'a dit quand même que c'était... méchant de ma part de lui avoir fait ça, etc. Enfin, il n'était pas content dans une certaine mesure, puisqu'il l'a prise la page, donc finalement il l'a supportée. Mais... Et en même temps, j'ai reçu deux coups de fil de deux copains qui m'ont dit « Mais écoute, c'est vraiment épouvantable ce que tu nous as fait, etc. Tu t'es fichu. »
Mais qu'est-ce que vous disiez là-dedans ?
Je me rappelle plus exactement. Enfin, c'était le type, en gros, qui disait qu'il n'avait rien à faire de l'argent, que c'était pas son problème. Et puis qui racontait qu'en même temps qu'il allait en week-end au Maroc. Mais alors l'autre disait, mais alors comment tu fais pour aller en week-end? Il disait, c'est la société qui paie. Mais il passait très rapidement sur tous ces trucs-là. Il disait sans arrêt que lui ne possédait rien. Et que... Enfin, j'ai l'air de dire que c'est une page intéressante. Elle n'est pas spécialement intéressante. Mais je veux dire que c'est le truc absurde du type qui prétend ne pas s'intéresser à l'argent et qui profite sans arrêt de trucs procurés par l'argent.
Ça revient souvent, le mot absurde, chez vous.
Ah non, c'est vous qui me branchez là-dessus.
Ah bon?
Vous êtes d'une mauvaise foi crasse.
Ah bon? Vous me ressentez de mauvaise foi?
Non. Je vous ressens comme un intervieweur faisant son métier.
Comment ça se passe chez vous, la création? Vous pensez un sujet, vous dessinez après, vous... Comment ça se passe?
C'est variable. Enfin, en gros, je suis en retard pour rendre. Alors, je m'y colle, je me mets à ma table et je cherche. Mais enfin, j'essaie de noter, de prendre des notes beaucoup, mental la plupart du temps. Mais je veux dire qu'il y a des conversations qu'il n'y a presque pas besoin de retravailler, parce que c'est tellement bien. Enfin, c'est difficile à trouver, mais quand on tombe dessus, c'est vraiment un plaisir sans mélange. Alors là, c'est vraiment sadique, parce qu'on fait parler l'interlocuteur pour arriver après à le ridiculiser. Mais en fait, comme je me ridiculise moi-même...
Ce sont des textes qui vous inspirent? Vous partez de mots pour arriver au dessin ou quoi?
Oui, enfin c'est très prétentieux. Enfin j'aime beaucoup les mots, je veux dire, qui me réjouissent par eux-mêmes. Et il y a un certain nombre de mots à la mode qui me remplissent d'aise en ce moment. Par exemple, prise de conscience. Enfin, vous voyez le genre, quoi. On n'entend que ça en ce moment.
Ça vous fait penser à quoi, prise de conscience?
Eh ben, ça me fait penser à la connerie générale, enfin, je veux dire... Tout le monde veut prendre conscience de tout, et en fait, bon, bah, personne ne prend conscience de rien, parce que tout le monde est tellement noyé dans ses propres problèmes et tellement occupé à regarder son nombril.
Vous avez ce sentiment-là, que tout le monde est noyé dans ses problèmes et occupé par son nombril?
Ah oui, vraiment. Ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils refusent, enfin, parce qu'ils ne veulent pas y penser. Et c'est pas tellement plus réjouissant.
Mais alors, c'est fatal, alors?
Ah oui, c'est fatal.
Comme on dirait, et là, ça avait peut-être un mot pour vous, c'est ça la vie, quoi. Comme
oui,
on dirait enfin, bêtement. Enfin.
Non, mais on dit avant, les gens s'introspectaient moins, avant les gens se disaient plein de choses là, mais ils n'avaient pas le temps parce qu'ils avaient des vies plus difficiles. Ou, enfin bref. Mais aussitôt qu'on a le temps, automatiquement on est amené à s'introspecter, puisqu'il n'y a que ça d'intéressant dans la vie, c'est son propre individu. Donc, il faut bien s'y intéresser, d'autant plus que si on ne s'y intéresse pas, qui s'y intéressera. Ouais.
Moi, il y a autre chose qui me frappe dans vos bandes dessinées, c'est que au début de la bande, vos anti-héros ont l'air d'être occupés par un espoir. Moi, ils me donnent le sentiment, au début, hein, c'est très personnel ce que je vous dis, ils me donnent le sentiment qu'ils vont essayer de s'en sortir. De quoi? De quelque chose? Du manque de travail? De ceci, de cela?
Tiens, je vais me penser à
ça. Ah bon?
C'est-à-dire que souvent, la bande débute par le début d'une discussion.
Oui.
Alors évidemment, une discussion, on a l'impression que ça va ouvrir sur quelque
chose.
C'est
ça, c'est ce que je voulais dire.
C'est justement des discussions complètement oiseuses, parce que justement, en général, à la fin arrive une phrase qui contredit complètement tout ce qui a été dit au départ. C'est l'opposition entre l'opinion qui fait plaisir et sa façon de penser profonde.
Je sais pas, j'ai l'impression que vos anti-héros, pour continuer comme ça sur ce mode, ils n'habitent pas ce qu'ils disent. Ils disent des choses, mais c'est pas eux.
Mais oui, parce qu'on est complètement... on est des éponges, on recueille des tas de phrases, des tas d'articles, des tas d'informations. On est complètement saturés, enfin, la plupart des gens. Alors, on est bien obligé de les régurgiter d'une façon ou d'une autre, mais ça veut pas dire qu'on les a assimilés, donc ça reste très superficiel. Et tout ce qui anime votre façon d'agir, ça, c'est extrêmement profond et compliqué et difficile à atteindre. Donc, c'est deux choses juxtaposées qui ne collent pas du tout.
Vous êtes très pudique?
Je sais pas. Pourquoi?
Je sais pas, j'avais envie de vous demander ça.
Non, je pense pas.
Par rapport à vos sentiments?
J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. C'est un peu... Comment savoir si on est pudique par rapport à ses sentiments?
Non, c'est tout ce que vous dites qui me fait penser à ça.
Ouais.
Au fond, vos personnages, on dirait qu'ils n'osent pas aller plus loin.
Alors ça, c'est vraiment tout le problème de la psychanalyse, qui est tellement à la mode aussi. Si on essaie d'aller un peu à la recherche de ce qui vous appartient vraiment, c'est un boulot très long et très ardu, qui demande en plus une grande bonne volonté, et du temps et de la concentration, toutes choses. Enfin, le temps, moi, c'est de ça qu'on parlait, je crois. Non, mais enfin, la concentration et le temps, c'est quand même pas toujours facile à trouver pour la plupart des gens.
Comme vous avez beaucoup de temps, vous arrivez à aller très loin, alors.
C'est pas pour ça que j'ai la concentration nécessaire.
Vous vous défendez, là.
Ben, qu'est-ce que vous voulez, je suis pas un cas, hein. Je suis pas un cas particulièrement réussi, je veux dire. Mais ce qu'il y a de bien dans mon boulot, c'est que j'arrive quand même à, si vous voulez, par le ridicule, à me ridiculiser moi-même, donc à faire un petit peu connaissance, quand même.
Le ridicule serait un chemin, en quelque sorte.
Oui, et en même temps, c'est dangereux. Par exemple, moi, on a été élevés de façon à avoir un grand sens de l'humour, c'est-à-dire que de toute façon, quoi que nous fassions, mes frères et sœurs et moi, c'était toujours ridicule et mal fait, stupide, donc on était toujours amenés à rire de ce qu'on faisait soi-même. Par exemple, mon frère, à 8 ans, s'il se mettait à brailler, parce qu'il s'était fait mal, il s'interrompait de brailler pour rire, parce qu'il se moquait de lui en train de pleurer, puis après, il recommençait à pleurer. Alors, c'est assez spécial comme conditionnement. Donc,
Je suis en train de me dire une chose, mais peut-être que de faire le boulot que vous faites, des bandes dessinées, c'est une sorte d'exorcisme. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je dis ?
C'est pas un exorcisme. Enfin, oui, c'est un exutoire, en tout cas, c'est évident. Je veux dire que c'est presque une auto-analyse, hein. Dans certains cas. Mais enfin, c'est pas suffisant. Mais enfin, c'est très satisfaisant de ce point de vue-là. En tout cas, c'est très vengeur.
Alors moi, je dois dire une chose parce que les auditeurs ne peuvent pas vous voir. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais j'ai envie de le dire. Vos personnages ne sont pas beaux. Mmh. Alors que vous, votre physique est agréable à voir.
Ça, c'est un peu un conditionnement de bande dessinée. D'abord, je fais de la bande dessinée humoristique. C'est un dessin simplifié. Hein. Alors, un dessin simplifié, vous êtes obligé de schématiser. Tous les dessinateurs humoristiques font des gros nez. Enfin, c'est une espèce de conformisme, ça. On ne peut pas tellement l'éviter.
Vous croyez que c'est extérieur ?
Quoi donc ?
C'est uniquement des raisons comme ça, d'ordre professionnel, qui vous fait faire ces dessins de cette façon ?
C'est-à-dire que... Si j'ai choisi de faire de la bande dessinée humoristique, parce qu'il y a aussi de la bande dessinée réaliste, ça doit être pour des raisons profondes. Mais maintenant que j'en fais, je ne peux pas tellement faire autrement.
Non, parce que vous avez l'air de dire que la forme, le physique de vos personnages, c'est quelque chose qui serait dicté par un conformisme à ce qui se fait en ce moment.
Ah ben oui, c'est un peu ça, oui.
Et si c'était autre chose aussi?
Mais c'est peut-être autre chose. Mais enfin, je veux dire, moi, ça me satisfait plus de faire des gens moches, oui, je dois dire. Et en plus, ils ont l'air fatigués et déprimés tout le temps.
Alors, ils sont moches, ils ont l'air fatigués, déprimés, ils disposent pas de leur temps, ils sont contraints, ils disposent pas de leur langage.
Ah oui, c'est vraiment, ils sont pas gâtés. Et j'arrive pas à faire des gens sympathiques, c'est ça, c'est incroyable. J'ai essayé et ils tournent toujours au vinaigre. Je fais une bande dessinée qui s'appelle Cellulite et c'est un personnage féminin. J'essaie toujours de lui adjoindre des comparses sympathiques et ils sont toujours pires encore. Ils sont lâches, ils sont sordides.
Est-ce que vous vous aimez ?
Enfin, j'ai eu très 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 longtemps des complexes physiques épouvantables qui maintenant se tassent parce qu'à partir d'un certain âge, il faut vivre avec ce qu'on a. Mais non, je ne peux pas dire que je m'aime tellement. Oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que je fais des personnages laids, c'est ça, hein ?
Je ne sais pas. J'ai rien dit.
Non, mais je veux dire, ça revient toujours. Bon, oui, probablement, au départ, j'ai fait des personnages laids parce que je me trouvais moche. Oui, c'est sûr. Ce qu'on me reproche beaucoup, enfin, je ne dis pas d'ailleurs que vous le faites, mais ce que beaucoup de gens me reprochent, c'est de faire des femmes laides. Parce que on considère que les femmes en dessin ne doivent jamais être laides. D'ailleurs, en bande dessinée, ça a longtemps été une règle absolument intangible. Il ne faut pas faire de femmes laides, d'abord parce que les lecteurs ne supportent pas, ça les traumatise, et puis parce que les femmes, à supposer qu'elles lisaient bande dessinée, ce qu'elles font grâce au ciel maintenant, ça les traumatise aussi parce que la femme est un être séraphique et beau par définition. Alors donc, il ne fallait pas faire de femmes laides. Ça, c'est... Et si vous lisez des bandes dessinées classiques, genre Astérix, vous verrez que les filles sont toujours traitées d'une façon Walt Disney, gentille, jolie. Comme dans Walt Disney d'ailleurs. Enfin, pensez à Blanche-Neige ou Cendrillon. Par opposition au personnage masculin, c'est toujours des pépés. Alors ça m'a toujours profondément énervée parce que d'une part, moi, je me trouvais moche et d'autre part, je trouvais que la gent féminine n'était pas particulièrement réussie par rapport à la gent masculine.
C'est curieux que vous vous trouviez moche.
Oui, mais enfin, ça, bon, c'est, vous savez, je me trouve... J'ai des jours, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ?
Si je vous repose la question du début de cette émission, je vais vous demander d'essayer d'associer maintenant, c'est-à-dire de dire ce qui vous passe par la tête. Qu'évoque pour vous la notion de temps libre ?
Traîner. Vraiment traîner. C'est-à-dire ce que je fais, aller au cinéma, aller voir les copines, aller faire des courses, m'écrouler à une terrasse, voilà. Ça, j'aime. Mais le temps libre organisé, si vous voulez, par exemple, aller faire du tennis ou des trucs comme ça, je peux pas. De temps en temps, je me dis, faudrait absolument que je fasse quelque chose d'efficace, que je fasse de la gymnastique ou des trucs comme ça. Enfin, vous voyez, ou du sport, ou parce que... Tout vous pousse à avoir des loisirs efficaces en ce moment, je trouve. Et j'y arrive pas, ça m'intéresse pas. Et si je le fais une fois par hasard, vraiment, c'est un calvaire. Alors, je trouve qu'autant éviter et autant continuer à traîner.
Et le mot traîner, ça vous fait penser à quoi ?
Qu'est-ce que vous entendez, vous, par traîner ?
Moi, je vous demande...
Moi, je marche. Je marche dans la rue, je regarde les boutiques, je m'achète des trucs, je rentre dans un cinéma. Je vous dis, je vous répète ce que je viens de vous dire. Ça, traîner. Ou bien je m'écroule chez moi et je lis, ou bien je... Voilà. Ou bien je me lime les ongles pendant une heure, ou bien je m'épile les sourcils pendant une autre heure, et puis voilà, quoi, c'est ça. Ou bien je... Je sais pas, voilà.
Vous voyez, vous n'avez pas dit « je rentre chez moi, je m'installe dans un fauteuil ». Vous avez dit « je m'écroule ».
Ah oui, parce que je m'écroule. Je suis très écroulée de nature.
Ça veut dire
c'est
quoi ?
Une nature très lymphatique. Quoi ? Ça vous choque le mot écroulé ?
Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'essaie de comprendre.
Ça veut dire que je ne m'assieds pas sur une cathèdre en bois avec les genoux serrés. Et ça veut dire que je me jette sur un divan et que je me relaxe. Je ne vois pas ce que vous voulez.
Je vais vous poser une dernière question. De quoi avez-vous peur ?
J'avais horriblement peur de la maladie jusqu'à il y a très peu de temps, et puis maintenant ça m'est égal. Même par moment, j'aurais bien envie d'être malade pour devenir complètement irresponsable. Mais oui, j'ai peur de ça. En gros, c'est tout.
Vous avez prononcé un mot qui rejoint un peu tout ce qu'on a dit, et puis en même temps. Vos bandes dessinées, vous avez prononcé le mot irresponsabilité, l'irresponsable, être irresponsable. Ça veut dire quoi pour vous ?
Je trouve que vivre, c'est difficile, enfin pour tout le monde. Et il y a des moments où on a vraiment envie de décrocher. Et c'est peut-être ce que d'ailleurs les gens appellent le temps libre, décrocher. Moi, pour moi, décrocher, ce serait ne plus, vraiment plus avoir à penser à moi. Plus avoir à penser à organiser mon temps libre, je commence à devenir un peu exigeante. Non, mais il y a des moments où on est fatigué, où tout vous fait profondément suer, où on aimerait bien laisser complètement tomber, auquel cas la maladie est un refuge.
Moi, j'ai envie de vous redemander de quoi vous avez peur.
Mais je sais pas quoi vous répondre. Mais tout le monde a peur des mêmes choses, encore une fois.
De quelles choses ?
Tout le monde a peur de ne pas être assez aimé, d'être plaqué, de ne pas réussir dans son boulot, d'être malade, de ne pas être dans le vent. Tout le monde a peur de ça, avoué ou pas. Bon, moi, comme tout le monde.
Vous croyez que c'est à ce niveau que ça se situe chez vous ?
Ben oui. Enfin, qu'est-ce qui peut effrayer plus les gens que d'être seul ou qu'on les aime plus ou de ne plus avoir d'amis ou... Enfin, c'est ça qui effraie les gens.
Non, ce qui est étonnant, c'est que je vous demande vous et vous me parlez les gens et le monde.
Parce que je me trouve pas très intéressante personnellement. Je fais partie des gens. Je
suis un spécimen pas tellement différencié de la moyenne des gens, je trouve. C'est comme ça que je me vois.
C'était Le temps libre de Claire Bretéché par Harold Portnoy. Une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 janvier 1974.